Diplomate, puits d'amour, conversation, polonaise, où sont passées les pâtisseries d'antan? A-t-on eu raison de les oublier? Lesquelles peuvent survivre au XXIe siècle? Eh bien, on sort le chariot des desserts ce samedi à la table des bons vivants avec Ophélie et Olivier. Et pour nous en parler, Sébastien Godard, ambassadeur du bon goût et gardien du temple, un des classiques de la pâtisserie. Il est installé à Paris, rue des Martyrs et rue des Pyramides, pas loin des belles Tuileries, du beau jardin des Tuileries. Il est avec nous au studio Coluche. Bonjour Sébastien Godard.
Bonjour.
Bonjour.
D'être là. Lorrain d'origine?
Oui, Lorrain.
Donc on
est assumé.
On en revient à ce qu'on dit souvent, il doit régner un microclimat sucré sur l'est de la France, parce que si on commence à faire le compte des pâtissiers qui viennent de cette région, Pierre Hermé.
Ah, il y en a beaucoup, hein.
Claire Etzler.
Oui.
Christophe Felder.
Gilles Marchal.
Gilles Marchal, Sébastien Godard. Christine Ferber qui nous fait de belles confitures,
ouais.
De sublimes confitures, c'est incroyable. C'est vrai qu'il y a un degré de précision là-bas, hein. On aime être précis et la pâtisserie est précise.
On est gourmand et puis il y a ces traditions un peu germaniques en fait du salon de thé, de la consommation de gâteaux, on offre des gâteaux, le gâteau du dimanche, tout ça, et c'est quelque chose d'assez fort, d'assez marqué. Ouais.
C'est ça, alors vous définissez Sébastien Godard comme un pâtissier de tradition. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors l'idée c'est de faire renaître la pâtisserie justement classique sans la réinterpréter, juste en fait en essayant d'aller à la quintessence de chacune des recettes et de faire en sorte que chacun des clients qui le goûte en se dise « Ah oui, c'est celui que je mangeais il y a 25 ans, 30 ans ». Même s'il est un peu différent parce que forcément il a été un tout petit peu réinterprété, moins riche, moins sucré et puis peut-être moins d'alcool quand on parle de gâteau avec de l'alcool.
Ah oui, Mais on va en parler. C'est vrai que l'alcool c'est un vrai sujet qui fait débat là aussi dans les desserts. Quelle pâtisserie avez-vous relancée par exemple alors pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas?
Alors il y a eu un des tout premiers qui m'a fait revenir à la pâtisserie classique avec Françoise Bernard qu'on avait rencontré ensemble il y a très longtemps.
Alors un mot sur Françoise Bernard, grande dame de la cuisine quotidienne et ménagère, effectivement. J'ai eu cette chance de la rencontrer et de faire une des dernières interviews avec elle. Elle nous a quittés il n'y a pas très longtemps, Françoise Bernard.
Oui.
Elle a vécu jusqu'à presque
plus de 100 ans.
Plus de 100 ans, hein,
oui.
C'est ça?
Elle a eu 100 ans et elle est partie.
Et c'est une des plus grandes vendeuses de livres, hein, de la cuisine du quotidien, la cuisine de Françoise Bernard. Et c'est elle qui vous a poussé à retrouver le goût de ces pâtisseries d'antan?
C'est elle qui a fait renaître en moi cette idée de la pâtisserie traditionnelle, puisque quand on a évoqué ensemble, quand on a écrit un livre ensemble il y a quelques années, et quand on l'écrivait, en fait, elle me parlait de ses souvenirs de dessert. Et je me suis rendu compte qu'elle avait déjà 88 ans, moi j'avais beaucoup moins de la moitié, et on avait les mêmes souvenirs. Donc je me suis dit à quel moment la pâtisserie s'est vraiment modernisée. Et c'était dans les années 80, où les choses ont vraiment évolué avec Gaston Lenôtre, mon père le fréquentait, et voilà. Il y a eu cette pâtisserie avec les mousses, avec toutes ces transformations, et la pâtisserie traditionnelle a commencé un peu à disparaître au profit d'autres pâtisseries plus modernes, plus créatives.
Mais elle revient, cette pâtisserie traditionnelle, j'ai l'impression que... On revoit ces grands classiques, les millefeuilles, les éclairs au chocolat, les diplomates.
Je pense qu'ils n'ont jamais vraiment disparu parce que je pense que la clientèle française est très classique et en fait on a une histoire, donc c'est quelque chose qui est assez ancré dans notre quotidien. Et elle a toujours vraiment existé, elle a été souvent très interprétée. Moi le parti pris que j'ai eu depuis 10 ans, c'est de ne faire que de la pâtisserie classique, sans interprétation, sans modification, et d'aller vraiment au plus proche de la recette initiale.
Alors lesquelles on trouve chez vous? Racontez-nous ce qu'on a en vitrine comme pâtisserie classique.
Alors il y a la polonaise, qui est souvent, il y a des gens qui parlent avec émotion de la polonaise, la conversation qu'on est en train de déguster. Le millefeuille le plus classique qui soit, la tarte au citron, le Paris-Brest, le Saint-Honoré, Othello également.
Oui, alors Othello, c'est ce qu'on appelait autrefois, et on a bien fait de changer, hein, c'est ce qu'on appelait la tête de nègre.
Voilà. De grandes guillemets. Et en fait, Othello, j'ai trouvé dans un livre des années 50, en fait, où justement le nom était déjà, c'était marqué Othello ou tête de nègre.
C'est
parce
ça.
Que le nom commençait déjà à être un peu politiquement incorrect.
Et on le comprend. Et la polonaise, qu'est-ce que c'est?
Alors la polonaise, il y a deux versions, soit c'est avec des fruits confits, soit avec des raisins secs. Donc quand c'est des fruits confits, c'est une crème, un genre de crème pâtissière avec du kirsch, des fruits confits. Et quand c'est des raisins secs, c'est avec du rhum et c'est de la brioche. En
D'accord.
fait, c'est ce qu'on utilisait. C'est quand on utilisait les brioches têtes, en fait, les brioches à tête, les petites brioches
D'accord.
avec la tête, là. En fait, le lendemain, pour les recycler, on les imbibait dans un sirop, on mettait de la crème, on les refermait, on les meringuait, on les passait au four et ça devenait la polonaise.
Il y a pas de pomme parce que j'en ai connu une qu'on prenait au petit déjeuner, ça rendait aveugle. Pas celle-là.
Non, c'est pas celle-ci.
Non, vous nous entendez plus.
On vous entend plus.
Mange.
Et alors, on vous entend plus alors que nous faisons la conversation. Et justement, vous êtes en train de déguster une conversation. Un petit mot sur ce dessert aussi oublié que vous avez remis au goût du jour, Sébastien
alors,
Godard.
La conversation, c'était pour une petite anecdote. Je l'ai refaite pour Bernard Pivot, puisque c'est un des desserts qui regrettait de ne plus trouver dans les pâtisseries.
Pour la grande librairie sur France 5, j'avais vu ça, oui.
Voilà, exactement. Exactement. Et donc depuis, on l'a fait. On a beaucoup de gens qui nous la demandent. Alors c'est l'histoire, ça a été créé à la fin du 18e par à la sortie du livre Les Conversations d'Émilie par Madame d'Épinay. Et c'est une pâtisserie qui apparemment a vraiment traversé les années. Alors on en a pu parler pendant très longtemps. Moi, je la connaissais, mais sans vraiment la faire. Donc, on l'a refait spécialement pour cette émission. Et on nous la demande aujourd'hui. Donc, c'est deux couches de pâte feuilletée, de la crème d'amande ou une frangipane. Mmh. Et sa spécificité, en fait, c'est sur le dessus d'avoir un petit peu le craquant d'une meringue dessus.
Ça très fait le côté galette des rois,
oui,
en fait.
Oui,
hein.
Exactement.
Mais en mieux.
Oui, mais il y a quelque chose de différent, effectivement. Il y a ce côté meringué en supplément. Mais il y a plus de légèreté que dans une galette des rois, j'ai le sentiment.
L'année prochaine, il faut qu'on goûte ma galette ensemble.
Ah, c'est pour ça. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé votre galette, Sébastien Godard. On parlait de l'alcool, tiens, dans les desserts. Alors ça, c'est vrai que c'est un marqueur aussi du 21e siècle et même du 20e siècle. On a vraiment désalcoolisé de nombreux desserts. Hein.
Mais ouais, baba au rhum sans rhum, ça reste quand même un peu triste. Hein.
Mais alors personnellement, moi voilà, j'adore l'alcool dans le baba parce qu'évidemment, il n'est pas question de manger un baba au rhum sans alcool. Mais il y a certains desserts, je trouve, où ça prend le pas. C'est une question de dosage, d'équilibre, l'alcool dans les desserts. Qu'est-ce
alors,
que vous diriez?
L'évolution, pour plein de raisons, je pense que à l'époque où on avait des gâteaux qui étaient très très alcoolisés, en fait, ça permettait de conserver aussi la pâtisserie. Ça, c'est une première chose. Les alcools n'étaient pas toujours très bons, ouais, très bien sélectionnés. Nous, on a encore des pâtisseries avec de l'alcool. Tous les fruits, en fait, on a une série de gâteaux qui s'appelle le framboisier, l'oranger, le mirabellier, l'abricotier, en fait, qui sont toujours sur la même une construction un peu similaire. On met toujours l'alcool de chaque fruit, mais on le met dans la crème chaude. Donc, le côté alcool s'évapore et on ne garde que le fruit. De la même manière qu'on fait le kirsch aussi avec la forêt noire est très légèrement kirchée par rapport à ce qu'on a connu auparavant.
Et petit clin d'œil à notre camarade Jean-Luc Petit-Renaud qui nous écoute, avec qui j'avais fait un clafoutis il n'y a pas longtemps et qui met une goutte de kirsch dans le clafoutis. C'est le temps des cerises et c'est vrai
exactement.
Que ça... Voilà, mais encore une fois, il est question de bien doser.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
On parle des pâtisseries d'antan à la table des bons vivants avec Sébastien Godard, pâtissier parisien qui est des nôtres au studio Coluche. Et il y a un petit débat là, parce que vous avez choqué Ophélie, Olivier.
Oui, moi j'ai mangé ma pâtisserie comme mes parents me l'avaient appris avec mes couverts. Elle m'a dit, mais t'es fou, il va pas manger avec les doigts.
Bah moi je l'ai mangé avec les doigts comme c'est bon quoi, c'est comme ça que c'est bon.
Ils mangent comment les clients dans votre pâtisserie parce que vous faites salon de thé, Sébastien Godard, avec les doigts ou avec les couverts?
Bah on espère avec des couverts parce qu'après il y a les banquettes.
Ça ne fait pas voir l'état du siège d'Ophélie.
Alors, on parle des pâtisseries historiques qui remontent le temps, hein, pour notre plus grand plaisir. Pour les réceptions, tiens, les mariages et les baptêmes, qu'est-ce qu'on vous demande le plus? Parce qu'on est en plein dans la saison des cérémonies, là.
Ben, moi, en fait, je pousse vraiment vers le croque-en-bouche. Parce que peu de pâtissiers le font encore aujourd'hui. Parce que c'est un gâteau assez éphémère qu'il faut monter au dernier moment.
Réexpliquer ce que c'est, parce que plein d'auditeurs ne connaissent pas. Alors, je suis sûr.
Ça s'appelle croque-en-bouche ou pièce montée. C'est des choux, donc de la pâte à choux, qui est garnie de crème pâtissière, plus ou moins légère, plus ou moins riche, qui peut être alcoolisée. Mon père en faisait au Grand Marnier à Pont-à-Mousson. Il en faisait au Cointreau aussi quand c'était demandé. Pour des communions, donc imaginez.
Pour ma communion.
C'est pour le premier communion.
Pour ma communion.
Et donc ensuite qui est monté en fait en cône, juste tenu par le caramel, rien au milieu.
Ce qu'on appelait la pièce montée en fait.
Exactement.
C'est ça. Voilà, c'est ça. Alors on va parler de l'historique de ce dessert parce qu'il y a plein de choses à dire et nous avons avec nous au téléphone Michel Tanguy, rédacteur en chef du magazine Turiès et journaliste spécialisé dans l'histoire des pâtisseries. Il est avec nous en ligne. Bonjour Michel Tanguy.
Bonjour Laurent.
Bonjour.
D'où il nous vient ce croque-en-bouche alors? Parce que c'est vrai qu'il revient en force, mais il a une belle histoire, racontez-nous.
Ah ben il est tout droit sorti du 19e siècle, ça c'est vraiment, parce que le 19e siècle c'était vraiment le siècle des pièces montées, où on avait le goût du décor et de la démonstration, et j'entendais Sébastien Godard parler de petits choux, mais c'est vrai qu'au 19e on pouvait aussi faire ce croque-en-bouche, donc qui était synonyme de pièces montées, avec des croquignoles ou des guimblettes, des nougats aussi, on le faisait avec des quartiers d'orange, enfin c'était vraiment quelque chose qui était fait pour ce qu'on appelait les extraordinaires, donc l'extraordinaire en fait c'était les commandes spécifiques pour les réceptions. Et c'est comment ces pièces montées servaient vraiment d'ornement. Et tout cela, on le doit à Antonin Carême, le grand pâtissier de la fin du 18e et du début du 19e siècle.
Le roi des pâtissiers, le pâtissier des rois, hein, comme on l'appelait, à qui on prête la création de la pâte feuilletée, me semble-t-il, et qu'on définissait comme un architecte du goût aussi, parce que c'est vrai qu'il avait une notion très précise et très calibrée de ces desserts qui étaient vraiment des œuvres d'art, on peut le dire, hein.
Oui, absolument. Ce qui était drôle chez lui, c'est qu'en fait, il est issu d'une famille très très pauvre. Il a commencé à une dizaine d'années à travailler dans un restaurant où il a fait la plonge. Et en fait, c'est à force de travail et de persévérance qu'il a réussi à se placer à 16 ans chez un pâtissier qui s'appelait Bailly. Et en fait, il a appris à lire, à écrire en même temps qu'il apprenait à pâtisser. Et il s'est passionné d'architecture. Et c'est cette passion d'architecture qu'il a retranscrite ensuite dans ses gâteaux. Alors qu'en plus des pièces montées, il faisait des ponts. Il faisait de grandes sculptures en massepain, donc en pâte d'amande. C'est vraiment quelqu'un qui a marqué son temps et on le retrouve dans les livres, parce qu'en plus il est auteur de livres, donc dans les livres qu'il a écrit, on retrouve énormément de dessins qui prouvent toute la créativité de ce garçon.
C'est vrai que le 19e siècle est un grand siècle pour la pâtisserie, Michel Tanguy. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il marque à ce point ce 19e siècle ?
Je pense qu'en fait c'était vraiment l'évolution. Le 19e, c'est le siècle de la modernité. On a un rapport à la nourriture qui change. On a aussi l'arrivée au milieu du siècle de la première machine frigorifique. Les matières premières commencent à voyager en bateau fin du 19e siècle. Donc ça permet aussi d'avoir non seulement des nouvelles techniques, aussi des nouveaux produits. Et puis petit à petit, en fait, comme le montre ce que font les pâtissiers actuels, les techniques évoluent. Et puis on regarde le gâteau de manière différente, on essaie de le faire évoluer. C'est vrai que le 19e, je pense, par cette modernité-là, a aussi accompagné l'évolution de la pâtisserie.
Ah c'est passionnant. Merci Michel Tanguy. Et on retrouve vos belles histoires dans un très beau livre qui s'appelle La merveilleuse histoire des pâtisseries, qui est paru chez Grund et que je conseille parce que c'est vrai que la pâtisserie aussi a une histoire et on vient de l'entendre avec vous. Merci Michel Tanguy et bon week-end.
Merci à vous.
Et il y a un fraisier qui fait son entrée au studio Coluche, dites donc. Là aussi, c'est un grand classique de la pâtisserie française. Je sais qu'il a de nombreux adeptes et de nombreuses adeptes pour la fête des mères de demain. J'imagine qu'on va vous le réclamer, Sébastien Godard, ce fraisier.
Oui, le fraisier fera partie de la gamme des choses qu'on va proposer pour la fête des mères. Entre autres pâtisseries, le nôtre est à la pistache avec des fraises de France.
Oui, c'est ce que j'allais dire. L'appareil à l'intérieur est un petit peu teinté. C'est de la pistache, alors.
Oui, c'est de la pistache. Il peut être à la vanille. Nous, on a choisi de le faire à la pistache. Le pistache fraise, ça fonctionne très, très bien. C'est des fraises du Vaucluse. Là, celle-ci, c'est la variété, c'est de la Dream. Donc, qui est très aromatique, qui a des notes un petit peu de fleur d'oranger, en fait, on ne travaille que les fruits au meilleur de leur saison. Là, on attend encore les abricots parce qu'il est trop tôt et ils sont pas encore bien mûrs.
Ouais.
Voilà, exactement. Et on arrêtera quand ça n'irait plus, en fait. D'ailleurs, on a eu deux jours pas très jolis parce qu'il faisait très très chaud. Voilà.
Dans le nord des Bouches-du-Rhône, on était sur un marché tout à l'heure au début de l'émission. Ils étaient déjà bien mûrs. C'est vrai que ça dépend des endroits, mais on commence à avoir des abricots bien mûrs. Les grandes étapes, tiens, sans rentrer dans le détail complètement, mais pour nos auditeurs qui voudraient peut-être s'attaquer au fraisier ce week-end ou tout simplement pour le savoir, les grandes étapes, c'est quel genre de pâte déjà ?
C'est une génoise aux amandes avec une crème. Alors nous, c'est pas une crème au beurre, on fait une crème pâtissière qu'on beurre un peu plus.
D'accord, mais sinon c'est crème au beurre, hein, c'est ça ?
Voilà, c'est une crème au beurre avec des fruits et on peut justement mettre un tout petit peu dans le sirop. On en imbibe avec un tout petit peu de kirsch ou d'alcool de framboise pour être sur les notes fruits rouges.
C'est vrai que la pistache et la fraise, ça marche bien.
Incroyable. Je trouve que c'est d'une raffiné. On peut pas imaginer à quel point. Non, mais à quel point il y a des goûts, c'est complexe, c'est élégant, c'est délicat, c'est raffiné. Mon Dieu, mais j'adore ce gâteau, je veux ce gâteau pour demain, pour ma fête des mères. Si vous m'entendez, mon chéri et mon petit garçon de 6 ans, voilà, le fraisier que je suis en train de manger, s'il vous plaît, je vous en supplie.
Mais celui-là, vous le mangez pas avec les doigts.
Mais trop bon. Non, tu as vu, j'ai pris ma cuillère.
Rue des Martyrs et puis rue des Pyramides, près des Tuileries. Eh bien, merci Sébastien Godard d'être venu nous parler desserts et pâtisseries à la table des bons vivants. Et je trouve que ce fraisier, en fait, eh bien, il fait la jonction complètement entre ce qu'on disait au début, les pâtisseries d'antan, les pâtisseries classiques et puis la modernité. Là, vous êtes toujours dans le classicisme et en même temps, vous avez apporté une touche de modernité de l'époque.
Oui, effectivement, la pistache, est, parce que j'apprécie spécialement la pistache et que la crème au beurre, en fait, n'a pour moi pas d'intérêt réel en fait dans ce gâteau. C'est plus léger, c'est plus fondant, c'est plus crémeux et on est sur une note de pistache, une vraie pistache en fait.
Et ben voilà, ouais. Messieurs qui nous écoutez, faites des desserts pour la fête des mères si vous voulez.
Ou
allez les acheter chez de bons pâtissiers.
On a de bons pâtissiers,
c'est vrai. On peut faire un atelier avec les enfants, mais c'est vrai qu'on prendra moins de risques en allant chez le pâtissier probablement. Merci Sébastien Godard.
Merci à vous.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.